semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Bonjour, ravi de vous retrouver cette semaine et merci de votre fidélité. Comme chaque samedi, avec la rédaction, nous allons revenir sur 7 jours d'information. Et je vous rappelle que vous pouvez podcaster ce rendez-vous hebdomadaire sur le site de la radio www.rfi.fr. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, Akram Belkaïd, essayiste algérien, journaliste au Monde diplomatique. Bonjour.
Bonjour.
Vous collaborez également au site Orient 21 et vous tenez une rubrique hebdomadaire au quotidien d'Oran, la chronique du blédard. Nous vous avons invité aujourd'hui pour parler de la situation en Algérie, d'autant que vous sortez le mois prochain, le 4 avril, un nouveau livre, L'Algérie en 100 questions, aux éditions Talendier. Akram Belkaïd, quelle a été votre réaction le 11 mars dernier lorsque Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il renonçait à se présenter pour un cinquième mandat?
Alors, je vais être honnête avec vous, 2 minutes de joie, et puis après, on fait ce que tout journaliste devrait faire avant de réagir, c'est-à-dire de lire et de bien entendre, et c'est là où je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était une fausse sortie, puisque certes, il renonçait au cinquième mandat, mais dans le même temps, il annonçait que son quatrième mandat était prolongé de facto, puisqu'il y avait ce projet de conférence nationale de transition, de conférence nationale inclusive, qui ensuite devrait déboucher à une date inconnu sur de nouvelles présidentielles. Et donc, la manœuvre était claire.
Donc, une vraie fausse sortie, en quelque sorte.
Totalement. C'est une entourloupe, hein, j'ai appelé ça une entourloupe anticonstitutionnelle, puisque c'est une manière, finalement, de s'affranchir de la Constitution, parce que, selon les textes, le président n'a pas le droit d'annuler les élections. Il n'a pas le droit de proroger de lui-même son mandat. Et donc, on est dans une situation anticonstitutionnelle qui rappelle un peu ce qui s'est passé en RDC en 2016.
Alors, selon vous, est-ce que la candidature Bouteflika a été retirée sous la pression non violente, mais constante, de la rue, ou bien pour une autre raison qui serait interne à l'appareil d'État?
Je pense que la réaction de la population, la réaction populaire massive, historique, vraiment historique, parce que c'est la première fois depuis l'indépendance de ce pays qu'on assiste à autant de manifestations populaires, répétées et de manière aussi régulière et pacifique. Et donc, c'est ce qui a jeté le trouble au sein du régime, du clan présidentiel. Vous savez que le régime algérien est composé de plusieurs clans, et c'est ce qui leur a fait faire quelques pas en arrière avec cette situation ubuesque, puisque le président, dans une de ses lettres, a affirmé qu'il n'avait jamais été question pour lui d'être candidat pour un cinquième mandat, alors qu'une semaine avant, son chargé de campagne avait déposé son dossier au Conseil constitutionnel.
Alors justement, est-ce que c'est lui qui envoie les courriers, qui est candidat, ou est-ce que c'est quelqu'un qui, pour lui, fait les choses?
Alors c'est la grande question qu'on se pose, et bien entendu, ma réponse, elle est non. Je ne pense pas que cet homme malade, affaibli, diminué, grabataire, puisse avoir l'activité qu'on lui prête, que son entourage lui prête. Donc effectivement, qui fait ça à sa place, c'est la question fondamentale. On publie dans le Monde diplomatique du mois d'avril un article sur qui sont les décideurs, comment Bouteflika a renforcé son pouvoir, et on voit l'importance du clan présidentiel, notamment ses proches, qui sont en réalité ceux qui décident à sa place aujourd'hui.
Oui, nous aurons l'occasion d'en reparler tout au long de cette émission. Avant cela, place à l'actualité dans le monde hors Afrique.
Sept jours dans le monde.
Et on s'intéresse d'abord au Royaume-Uni et au Brexit. La date butoir du 29 mars arrive à grands pas pour la sortie du Royaume de l'Union européenne. En attendant, une solution miracle qui ne vient pas. La première ministre Theresa May a réclamé cette semaine plus de temps à l'Union européenne, mais pas trop.
Je ne suis pas prête à repousser le Brexit au-delà du 30 juin. Certains estiment que j'ai fait un mauvais choix et que je devrais demander un délai plus important jusqu'à la fin de l'année ou au-delà, afin de donner plus de temps aux élus de débattre de la route à suivre. Cela voudrait dire vous demander de voter aux élections européennes, près de 3 ans après que notre pays a décidé de quitter l'UE. Quel genre de message serait alors envoyé? Cette campagne électorale ne serait-elle pas amère et clivante, alors alors que notre pays a plus que tout besoin de s'unir? Certains ont suggéré d'organiser un deuxième référendum. Ce n'est pas ce que vous voulez. Je ne crois pas. Et ce n'est pas ce que je veux. Nous vous avons déjà posé la question et vous nous avez donné votre réponse. Maintenant, vous voulez que nous poursuivions le Brexit et je suis déterminée à le faire.
Et donc, ce sera finalement le 12 avril ou le 22 mai au plus tard. Le 22 mai, veille des élections législatives européennes, si Theresa May ou un éventuel successeur parvient à faire adopter l'accord sur le divorce. Le 12 avril, date butoir pour dire si le Royaume-Uni compte organiser les élections, si l'accord de divorce est rejeté. Dans ce cas, le no deal risque d'être le plus probable. Ainsi en ont décidé les 27 lors du sommet de jeudi et vendredi. Pendant ce temps, les Brexiteurs font le forcing pour rappeler aux parlementaires britanniques leurs obligations vis-à-vis du résultat du référendum de 2016. Ils ont donc entamé dimanche dernier une longue marche sur les routes du Royaume, Nigel Farage en tête. Écoutez le reportage de Sarah Ders.
Ils marchent pour le Brexit en brandissant des pancartes avec un message unanime. Stop à la trahison du Brexit et leave means leave. Partir, c'est partir. L'eurodéputé europhobe Nigel Farage reprend son bâton de pèlerin et repart en campagne contre la grande trahison qu'il dénonce depuis des mois.
Dans 13 jours, nous devrions quitter l'Union européenne. On fera une grande fête. Le problème est que cette semaine, le Parlement essaye de trahir le peuple britannique. C'est une véritable trahison, non seulement car le Brexit, c'est ce que le peuple a demandé à travers le référendum, mais aussi en choisissant un parti qui avait promis un Brexit effectif.
430 km de Sutherland dans le nord du pays, jusque sous les fenêtres du Parlement britannique le 29 mars prochain, pour dénoncer le report du Brexit. Une centaine de personnes étaient prévues au départ. Les organisateurs de cette marche pour partir espèrent que leurs rangs se gonfleront à mesure que le cortège se rapprochera de Londres.
Le livre du Brexit est loin d'être clos et ses pages d'actualité sont à lire et à écouter dans nos journaux d'information, notamment les nombreuses réactions et les commentaires à l'issue du sommet européen d'hier et avant-hier. Irréfléchis, ignobles et offensants, ainsi sont jugés par le Premier ministre australien les propos tenus lundi par le président turc après l'attentat meurtrier d'un extrémiste australien dans des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Recep Tayyip Erdogan avait déclaré que l'attentat de Christchurch s'inscrivait dans le cadre d'une attaque contre l'islam et contre la Turquie. « Ce n'est pas un acte isolé, c'est quelque chose d'organisé », avait-il affirmé lors d'un discours de campagne prononcé dans l'ouest de la Turquie à 2 semaines d'élections locales. Et cela crée une crise diplomatique qu'évoque Caroline Lafargue depuis Melbourne.
Pour Recep Tayyip Erdogan, les Australiens islamophobes qui se risqueraient aujourd'hui en Turquie sont tout simplement condamnés à mort. Le président turc leur réserve, dit-il, le même sort qu'aux soldats australiens venus combattre les Ottomans pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont repartis dans des cercueils, a-t-il déclaré. Soyez certains que nous vous renverrons dans le même état que vos aïeux. Recep Tayyip Erdogan a proféré ses menaces en réaction au massacre de Christchurch. Le tueur, un suprémaciste australien blanc et islamophobe, cible en effet la Turquie dans son manifeste, appelant au meurtre d'Erdogan et de tous les Turcs d'Europe qui vivent à l'ouest du Bosphore. À Canberra, les menaces du président turc ont ulcéré le Premier ministre. Scott Morrison juge ces propos, je cite, « extrêmement offensants car ils insultent la mémoire des plus de 8000 Australiens tués sur le front turc en 1915 et totalement irresponsables car ils mettent en danger les Australiens actuellement en Turquie. » Scott Morrison a refusé les excuses présentées par l'ambassadeur turc. Il attend celle du président Erdogan lui-même, faute de quoi il promet de ne pas en rester là. À ce stade, ajoute-t-il, toutes les options sont ouvertes.
Akram Belkaïd, il n'y a pas que les islamistes radicaux qui commettent des attentats terroristes meurtriers. Qu'est-ce que ce drame en Nouvelle-Zélande vous inspire et surtout, que penser de la réaction turque ?
Alors, il y a deux choses. Effectivement, il y a ce terrorisme islamophobe qui s'est déjà exprimé par le passé, notamment, si j'ai bon souvenir, au Québec, il n'y a pas très longtemps. Et on voit bien où est le piège dans cette affaire, c'est-à-dire que la violence appelant la violence, ce que a cherché ce terroriste que la première ministre néo-zélandaise n'a pas voulu nommer, c'est très bien, on cherche une confrontation, une escalade dans la violence, et c'est effectivement l'un des scénarios que beaucoup de gens craignent, et y compris en Europe, où la parole islamophobe s'est libérée ces dernières années. Elle est sortie de son, je dirais, domaine habituel qui était réservé jusque-là à l'extrême droite radicale. Et on l'a vu déborder, y compris dans les cercles intellectuels, chez certains penseurs, avec des théories totalement farfelues comme celle du grand remplacement, et donc l'idée que les musulmans seraient une menace pour la population et pour les gens qui vivent en Occident ou en Europe. Donc là, on voit bien où est le piège et ce qu'a recherché ce terroriste. Sur la réaction d'Erdogan, elle est malheureusement à la hauteur de ce qui est en train de devenir le président turc, c'est-à-dire que sa réaction n'est pas celle d'un homme d'État, c'est une réaction d'homme politique en campagne, qui est dans une position de plus en plus difficile, même si effectivement il a remporté tous les scrutins depuis 2002, mais tout de même la KP est contestée, il y a une dérive autoritariste marquée du régime turc. Vous l'avez dit, la Turquie s'apprête à voter pour les élections municipales locales, et on a, pour Erdogan, c'est une manière, si vous voulez, à la fois de flatter l'électorat religieux, donc la base de l'AKP, une partie de la base de l'AKP, mais aussi de flatter son autre allié récent, qui est la droite radicale, ou voire l'extrême droite turque, avec ce discours nationaliste, en faisant référence notamment à la bataille entre l'Empire ottoman et les forces occidentales en 1915, qui d'ailleurs draine souvent les souvenirs de ces batailles du front turc, draine énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez à ce moment-là, ça se passe au printemps, ces jours-ci, ça draine énormément de touristes qui viennent de Nouvelle-Zélande et d'Australie qui se recueillent devant les tombes des soldats morts à cette époque-là. Donc c'est totalement irresponsable de la part du président, mais ce n'est pas du tout surprenant en même temps.
Il y a toujours cette idée du retour à un empire, l'empire ottoman, qui dans toutes les mémoires en Turquie, bien entendu, et dans celle de Recep Tayyip Erdogan.
Alors, on lui prête effectivement une intention de restauration de la grandeur de la Turquie. C'est un discours, on l'a bien vu, avec notamment des symboles comme la construction d'un palais présidentiel imposant à Ankara, dans le discours l'Empire. Et puis, je pense aussi qu'il y a une volonté d'essayer, et c'est pas nouveau chez lui, de se remettre en position d'être le champion du monde arabo-musulman, alors que bon, il fait partie du monde musulman, mais la Turquie qui n'est pas un pays arabe, mais tout de même de parler au nom du monde musulman, de monopoliser la voix de la contestation musulmane à l'égard d'autres partenaires, notamment l'Occident. Et là, il se place vraiment dans cette ambition-là, ce qui inquiète beaucoup de Turcs. Mais on est en Turquie dans un contexte assez dur. Vous avez des arrestations d'intellectuels, des expulsions d'observateurs venus de l'étranger, une situation au Kurdistan qui se tend beaucoup, plus l'incertitude de l'intervention turque en Syrie. C'est une démarche d'expansion, d'affirmation, mais qui n'est pas dénuée de danger.
On peut dire qu'il y a, comme il y a un Brexit dont nous parlions tout à l'heure, il y a un Turk-exit peut-être, c'est-à-dire la Turquie qui s'écarte le plus en plus des valeurs occidentales ou européennes.
Alors, la Turquie, le paradoxe dans cette affaire, c'est que après son arrivée au pouvoir en 2002, l'AKP de M. Erdogan a fait beaucoup pour le rapprochement de la Turquie à l'Union européenne. C'est-à-dire que l'idée d'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne était défendue par l'AKP. Et l'AKP a beaucoup fait, notamment en termes de révision constitutionnelle, de révision des lois, pour justement répondre à ce qu'on appelle en Europe l'acquis communautaire. Je rappelle que la Turquie a fait énormément de concessions, notamment sur la peine de mort, sur l'interdiction de la peine de mort, sur l'ouverture de son marché, sur l'adoption des normes européennes. Et puis le temps, la réserve des Européens, l'opposition des Européens a fait que la Turquie s'est peu à peu éloignée de l'Union européenne. Aujourd'hui, aucun politicien de l'AKP ne parle de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. La Turquie regarde d'ailleurs, mais en même temps, elle a du mal à trouver de vrais alliés, parce que c'est aussi un isolement. Au-delà de toute cette esbroufe, la Turquie demeure aujourd'hui isolée, y compris sur le plan régional. Ses relations avec l'Iran ne sont pas excellentes, ses relations avec l'Europe sont tendues, et puis il y a la question syrienne qui pose énormément de problèmes.
L'homme Comfor du Kazakhstan démissionne et c'est une surprise. Un mois après avoir limogé son gouvernement, Nurslan Nazarbayev quitte à son tour le pouvoir, seul chef de l'État que le Kazakhstan ait connu. À 78 ans, on le dit malade, mais il reste néanmoins à la tête du Conseil de sécurité de son pays. Son portrait avec Nicolas Falaise.
Son titre officiel, père de la nation. Il est vrai que l'histoire de Nursultan Nazarbayev se confond avec celle de son pays. Il naît en 1940, alors que le Kazakhstan fait partie de l'Union soviétique. Ouvrier métallurgiste, l'homme gravit les échelons du parti communiste. Il en devient le premier secrétaire et donc le dirigeant du Kazakhstan en 1989. L'effondrement de l'URSS aurait pu le balayer, mais non. Nursultan Nazarbayev est élu président du Kazakhstan indépendant en 1991, puis systématiquement réélu à la tête de ce pays riche en ressources. Pouvoir sans partage et culte de la personnalité, le chef de l'État fait construire une nouvelle capitale, Astana. Il coécrit même l'hymne national de son pays. Des opposants politiques sont mystérieusement assassinés. Le pouvoir est régulièrement critiqué pour ses violations des droits de l'homme comme pour des affaires de corruption. Mais Nursultan Nazarbayev est loin d'être isolé. Les relations sont bonnes avec les États-Unis comme avec le voisin chinois. Bonnes aussi avec la France, comme le montrent les nombreuses rencontres officielles de ces dernières années.
Alors pour la première fois, un président d'une ex-république soviétique part de lui-même. Akram Belkaïd, est-ce que les temps ont changé ?
Oui et non. Oui, parce qu'effectivement c'est très symbolique, mais bon, tout de même, 30 ans, 3 décennies à la tête de ce pays dont il était le père de la nation. Hein, donc c'était un peu le titre honorifique avec là aussi une espèce de mégalomanie à la fois sur de grands travaux, du béton surgi dans les steppes, là où étaient avant des steppes et avec des gros contrats accordés aux grandes compagnies occidentales et notamment françaises. Mais comme on l'a dit, reste à la tête du Conseil de sécurité, ce qui veut dire beaucoup. Ça veut dire que en gros, il aura un droit de regard sur tout ce que va faire son successeur. Et puis, en même temps, on est dans une situation où la réponse à la contestation sociale, parce que c'est ce qui a été le catalyseur, on l'attend encore. C'est-à-dire que voilà un pays riche, ça pourrait s'appliquer à d'autres pays, mais voilà un pays riche où on a de vrais problèmes de pauvreté et d'inégalité croissante.
Oui, la pression de la rue a eu un premier effet, mais on attend les plus importants.
Oui, bien entendu. Quand c'est le départ des satrapes, des dictateurs, des présidents autoritaires est toujours un premier pas, mais ce n'est pas une fin en soi. On l'a bien vu par exemple en Tunisie, hein, Ben Ali s'en va, mais après il faut régler la question de la pauvreté, du chômage des jeunes, et c'est là où les difficultés commencent. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de savoir comment va se gérer la transition qui s'applique. Je dirais aussi autre chose, c'est que, comme ça a été dit dans le reportage, le Kazakhstan a longtemps évolué en dessous des radars internationaux et médiatiques. C'est-à-dire qu'il y a des dictatures auxquelles on s'intéresse et d'autres pas. Le Kazakhstan a longtemps réussi à ne pas faire parler de lui.
À l'exception peut-être du vélo, puisqu'ils avaient une équipe de cyclistes qui couvrait le Tour de France.
Ah oui, bien sûr, ça a beaucoup fait dans le soft power du Kazakhstan. Alors bon, ils ont eu à un moment donné de dérision internationale, puisqu'il y a cet acteur anglais qui s'est beaucoup moqué d'eux en faisant croire qu'il était lui-même originaire du Kazakhstan et qu'il a monté plusieurs sketchs de parodie au niveau, y compris un film, hein, donc Baron Cohen. Les Kazakhs n'ont pas du tout apprécié cette affaire. Moi, je me souviens qu'à une époque, il y avait eu énormément de mobilisation. Les réseaux sociaux à l'époque n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais voilà, c'est les deux manières dont le Kazakhstan a fait parler de lui avant ces manifestations.
Quel dispositif militaire international maintenir en Syrie une fois les milices islamistes, et notamment Daesh, mises hors d'état de nuire ? C'est cette question que se sont posées cette semaine Français et Américains à l'occasion d'une rencontre à Washington de la ministre des Armées Florence Parly avec son homologue américain Patrick Shanahan. Donald Trump, ayant dû faire marche arrière après son annonce sur un retrait total des troupes US de Syrie, les deux pays, avec d'autres, cherchent un terrain d'entente pour cette force résiduelle qui n'abandonnerait pas ses alliés des FDS sur le terrain. Olivier Four.
Pour la France, il s'agit de laisser en Syrie une force de contre-terrorisme. Les États-Unis, eux, parlent à ce stade de forces résiduelles. Pour combattre Daesh, le Pentagone avait mis les moyens. 2000 Marines, notamment, des avions, des hélicoptères, de l'artillerie, des infrastructures en dur, parfois, comme au nord de Raqqa, des bases à Al-Qaïm, à la frontière irakienne, entre Kobané et Manbij, près de la Turquie, et à Al-Tanf, dans la zone frontière syro-irako-jordanienne. Question, que va-t-il rester de tout ça? Après la victoire territoriale sur Daesh, il n'y aura plus de front, fait remarquer une source française. L'idée est donc de maintenir une empreinte légère en Syrie. Jusqu'alors, 200 à 300 forces spéciales françaises ont opéré dans la région, en coordination avec des experts de l'antiterrorisme français. À l'avenir, Paris souhaite continuer à surveiller ce qui se passe dans le nord-est de la Syrie et ne pas laisser tomber les Kurdes, partenaires dans la lutte contre Daesh. La France, de son côté, dépend des États-Unis pour la logistique militaire, la mobilité et les drones. Mais surtout, une présence américaine sur le sol syrien devrait pousser les forces du régime et l'armée turque à davantage de retenue dans la région, conclut une source française.
Ajoutons ce tweet de Donald Trump. Après 52 ans, il est temps pour les États-Unis de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le Golan. Une décision unilatérale qui va à l'encontre du droit international. Akram El-Kaïd, maintenir ou pas des troupes occidentales en Syrie, reconnaître ou pas l'annexion du plateau du Golan par Israël. Les cartes sont-elles en train d'être rabattues par les Américains dans cette région du monde?
Comme toujours, pour la première question, maintenir des troupes, jusqu'à quand?
Et pourquoi faire?
Pourquoi faire dans un pays souverain, encore une fois, et c'est s'exposer au risque d'un enlisement. Chaque fois qu'on parle de la présence américaine en Syrie ou de la présence américaine en Irak, puisque je signale qu'ils y sont toujours, pensons aussi à l'Afghanistan et à ces négociations qui ont lieu en ce moment entre les États-Unis et les talibans, et on peut se dire tout ça pour ça. Mais l'appareil militaro, le complexe militaro-industriel américain a besoin de guerre. La présence des conseillers ou cette présence résiduelle, quel bien étrange terme, des troupes américaines, et a aussi cette fonction-là. Je suis pas sûr que ça aide à régler la question syrienne, même si on sait très bien que, politiquement parlant, le risque de voir une nouvelle organisation apparaître sur les décombres de l'organisation de l'État islamique sont importants. Sur la deuxième question, voilà encore une fois les États-Unis qui s'affranchissent du droit international. Déjà, ils l'ont fait avec Jérusalem. Après avoir reconnu de manière unilatérale Jérusalem comme capitale d'Israël, de l'État d'Israël, alors que les textes internationaux, les résolutions de l'ONU sont là pour empêcher, pour dire le contraire. Et là, on est aussi sur le Golan. Monsieur Trump décide de lui-même que les États-Unis vont reconnaître de facto cette annexion qui est totalement illégale au vu du droit international. Il y a plusieurs résolutions de l'ONU qui se sont exprimées contre cette question. Le Golan, il n'y a aucune raison pour que la présence militaire demeure, pour que la présence israélienne demeure sur le Golan, qui à l'origine est une terre syrienne. Et donc, voilà, c'est une manière de dire au reste du monde, les États-Unis font ce qu'ils veulent, et l'Europe a beau protester, et la Russie a beau protester, c'est le fait du prince qui prime.
Et on peut aussi noter la façon dont ça s'est passé avec un tweet. C'est quelque chose qui peut-être a-t-il court-circuité ses conseillers, par exemple.
J'imagine bien, puisque on a effectivement le personnel du département d'État, notamment, se tient le ventre tous les matins en se demandant ce qui va être tweeté pendant la nuit, ou en tout cas à l'aube ou au réveil du président. Et là, encore une fois, mais c'est à l'image du personnage qui, de manière impulsive, peut prendre des décisions, qui est tout de même aussi entouré par, je pense notamment à son gendre, qui est tout de même la voix du lobby israélien à la Maison-Blanche. Donc le nombre de concessions qui sont faites à Israël sont de plus en plus importantes, dans un contexte où on attend le fameux plan de paix, pour le fameux plan de paix israélo-palestinien que les États-Unis nous promettent, qui doit être rendu public normalement après les élections législatives israéliennes.
Oui, le gendre Jared Kushner. En revenant maintenant à la situation en Algérie, puisque nous vous avons invité pour parler aussi de l'Algérie, qui est une opération en cours en quelque sorte. La contestation dont on parlait tout à l'heure, contestation non violente et qui a surpris tout le monde, vous, est-ce que vous la comprenez? Qu'est-ce qui la justifie, cette contestation non violente?
Alors, la contestation, je la comprends, parce que ça fait plusieurs décennies que les Algériens sont dans une situation d'exposition à un régime qui bafoue les libertés, qui verrouille le champ politique et qui est aussi dans un échec en matière de développement, parce que l'Algérie a dépensé beaucoup d'argent au cours de ces dernières années, mais on a toujours un chômage important au niveau de la jeunesse. Et si je devais reprendre le discours du président Bouteflika de 2012, il avait tout de même promis que sa génération devait passer la main. Il avait clairement dit, que, sans aucune ambiguïté, « ma génération est finie, nous devons passer la main ». Et après, il y a eu un quatrième mandat et la tentative d'en faire un cinquième. Donc, contestation, je comprends, et je comprends encore plus le caractère pacifique. Parce que, deux choses, les Algériens ont tiré les enseignements du passé, c'est-à-dire, je dirais, la période des années 90, où la violence, finalement, n'a servi qu'à, in fine, qu'à renforcer le pouvoir, qui s'en est sorti, qui est sorti encore plus fort qu'avant. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ils ont bien vu que dans les contestations violentes telles qu'elles se sont exprimées dans le sillage des printemps arabes, ça a débouché sur des guerres civiles. C'est le cas de la Syrie, voire le cas du Yémen. Ou à des interventions étrangères, c'est le cas de la Libye, le cas de Bahreïn et encore une fois du Yémen. Donc il y a cette connaissance de la situation internationale et ce refus que la situation ne dérape, parce que si jamais la violence prime, là encore une fois, ça va permettre au pouvoir de réprimer et de geler le processus de transition.
Mais précisément, quelles sont les revendications des Algériens aujourd'hui ? Est-ce qu'ils veulent plus de travail, plus de liberté, quoi précisément ?
Alors, il y a énormément de demandes. La première chose concrète, directe, immédiate, par rapport aux événements que nous vivons actuellement, c'est que, un, il n'y ait pas d'extension du quatrième mandat, c'est-à-dire que ce pouvoir, que ce président-là, ou en tout cas supposé tel, n'aille pas au-delà de son mandat du terme de son mandat qui est prévu pour le 28 avril. Il n'y a pas de revendication d'élection, il y a une revendication de changement pour que justement soient jetées les bases d'un État, d'une nouvelle République peut-être, qui soit un peu plus, ouverte à l'égard du bien collectif, du bien commun, c'est-à-dire d'un régime, d'un État qui ne gaspille pas l'argent de la rente, d'un État qui réfléchisse sérieusement à des politiques économiques, qui créent de l'emploi pour la jeunesse, qui mettent fin à une corruption endémique, qui mettent fin au départ de Haraga qui se noie, donc de clandestins qui se noient en Méditerranée. Enfin, tout ce que les Algériens souhaitent voir et qu'on leur promet depuis des décennies et qui ne se réalise pas.
Alors on a vu les étudiants, on les voit encore tous les vendredis manifester avec d'autres corps de métier, les journalistes, les magistrats, les avocats, mais pas d'islamistes en vue précisément. Pourquoi ?
Alors, je nuancerai parce que il est très difficile. Il n'y a pas eu de mot d'ordre islamiste, bien entendu, mais vous savez, dans une foule, vous avez des gens qui sont peut-être islamistes, qui sont peut-être d'anciens communistes du Parti communiste algérien. Il n'y a pas d'expression politique ou d'adhésion politique affichée. C'est un élan, je dirais, populaire. C'est le peuple qui défile. Alors, le peuple est une notion bien difficile à cerner, mais en tous les cas, toutes les catégories professionnelles sont présentes. Toutes les catégories d'âge aussi sont présentes. C'est ce qui est intéressant. À ces manifestations du vendredi, certains vont en famille. Donc, c'est le grand-père, le fils et les petits-enfants. Donc ça, c'est assez important. Pour le moment, il y a une unité au niveau de la contestation. Peut-être que plus tard, lorsque ce régime sera parti ou en tout cas aura passé la main, à ce moment-là, les divisions politiques s'afficheront. Je dirais pour terminer que les islamistes algériens, eux aussi, ont tiré les leçons du passé. Ils savent très bien ce qu'ils ont infligé, leur part de responsabilité dans ce qui s'est passé dans les années 90. Et jusqu'à présent, y compris les propos de certains de leurs dirigeants, je pense notamment à Ali Belhadj, sont très très prudents et je dirais presque très consensuels dans les revendications qu'ils exposent. Il n'est pas question pour eux de demander tout de suite une république islamique.
La situation commence à s'apparenter à la situation tunisienne, par exemple.
Alors, à la différence près que pour le moment, les forces de l'ordre n'ont pas ouvert le feu sur les manifestants. En Tunisie, ça a été très vite le cas. Je rappelle qu'après la mort de Bouazizi et les premières, le 17 novembre 2010, les premiers tirs contre les manifestants sont intervenus début décembre. Là, pour le moment, et ça c'est admirable, et en tout cas il faut le souligner, les forces de l'ordre algériennes ont fait preuve d'énormément de retenue, ce qui a permis justement des manifestations massives, voire même des scènes de fraternisation entre les manifestants et les forces de l'ordre.
Une semaine d'actualité.
L'actualité en France, fortement marquée cette semaine par le déchaînement de violence sur les Champs-Élysées à Paris lors de l'acte 18 des Gilets jaunes. Une véritable guerre urbaine avec incendie volontaire, saccage et pillage de magasins et, pour la première fois, la mise en danger de vies humaines dans la population. Cette violence qui tranchait fortement avec la grande manifestation pacifique en faveur du climat qui se déroulait à quelques kilomètres de là, beaucoup se demandaient comment elle avait pu s'abattre sur la plus belle avenue du monde. Le dispositif policier était-il à la hauteur ? L'ex-commissaire divisionnaire à la préfecture de police de Paris, Étienne Durand, nous explique au micro d'Olivier Roger que le maintien de l'ordre répond à des règles et des exigences précises.
Non, les policiers ne restent pas les bras croisés. Le dispositif qui est mis en place par la préfecture de police est élaboré en fonction des renseignements que la préfecture de police a pu obtenir au préalable. On savait déjà depuis quelques jours que les Black Blocs allaient intervenir en force sur les Champs-Élysées, donc le dispositif, me semble-t-il, a été adapté. Et c'est vrai qu'après, le problème se pose du choix qui est fait ou de la protection des établissements ou de la protection des personnes. C'est là où c'est très compliqué. Le premier choix qui est fait, c'est de protéger, d'assurer la sécurité des manifestants eux-mêmes, de protéger les manifestants d'individus qui peuvent causer des troubles. C'est ça le premier choix qui est fait. Après, lors des incendies, en fait, c'est protéger les pompiers qui vont intervenir sur l'incendie.
Est-ce qu'il y avait, selon vous, suffisamment de policiers présents sur les Champs-Élysées ?
De ce que j'ai vu, il me semble que oui. Alors après, il y a une polémique sur le fait que de nombreuses forces étaient engagées pour la protection de Matignon et de l'Élysée. Il me semble que de toute façon, c'est incontournable. L'Élysée étant tellement proche des lieux où les troupes se sont passées, il semble impossible de pas mettre un grand nombre de forces quand même autour de l'Élysée.
Et lundi, le gouvernement a tenté de reprendre la main après les violences à Paris en présentant une série de mesures que nous détaille Anthony Latier.
C'est l'une des mesures fortes qui a été annoncée. Dorénavant, les manifestations seront interdites si des éléments ultra, comme les appelle le Premier ministre, sont identifiés. Plusieurs quartiers seront concernés par ces interdictions, notamment les Champs-Élysées à Paris. Les amendes pour participation à une manifestation interdite vont passer de 38 à 135 euros. Édouard Philippe veut aussi changer la stratégie de maintien de l'ordre. Il veut des policiers plus mobiles, avec une capacité d'initiative plus grande. Le Premier ministre le répète, il y a eu des dysfonctionnements et pour lui, des consignes inappropriées ont été données pour réduire l'usage des LBD, les lanceurs de balles de défense qui ont blessé de nombreux manifestants. Et celui qui est implicitement visé, eh bien c'est le préfet de police de Paris, Michel Delpuech. C'est lui le bouc émissaire de ce samedi de violence. Il était critiqué depuis plusieurs mois. Il est limogé et remplacé par le préfet de la Nouvelle-Aquitaine, Didier Lallement. Le gouvernement cible enfin les personnalités les plus influentes parmi les gilets jaunes, comme Éric Drouet. Le ministère de l'Intérieur va désormais saisir de façon systématique la justice en cas de propos incitant ou légitimant la violence.
Des centaines d'Algériens et de Franco-Algériens rassemblés place de la République à Paris, c'était dimanche dernier, en écho aux immenses manifestations en Algérie. Ils dénonçaient le prolongement du quatrième mandat actuellement en cours du président Bouteflika. Ce même dimanche, une centaine de personnalités franco-algériennes interpellaient le président français Emmanuel Macron dans une lettre ouverte publiée par la presse. Parmi les signataires, Noël Boussaha, un militant associatif dont les propos ont été recueillis par Clémentine Pavlovski.
Très concrètement, ce que j'attends du président français Emmanuel Macron, j'attends essentiellement qu'il suive, bien sûr, le déroulé des événements jusqu'au 28 avril, puisque déjà, c'est la première phase, puisque le 28 avril, le quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika se termine officiellement. Il faut savoir qu'au-delà de cette date, il sera un président qu'on peut qualifier d'illégal dans la mesure où ce n'est pas à lui de prononcer le report des élections présidentielles. Sauf, comme le stipule bien l'article 110 du texte fondamental algérien de la Constitution algérienne, en cas de guerre. Alors, l'Algérie n'est pas en guerre, entendons-le. Pour en revenir plus précisément au président de la République, Emmanuel Macron, je pense qu'il faudrait que l'Élysée, via son service de communication, fasse preuve d'une certaine retenue par rapport à ce qui se passe en Algérie, parce que ça peut être très très mal perçu, non pas spécifiquement de la part du pouvoir d'Alger, qui n'attend que ça, mais de la part de la population algérienne.
Et Al-Kram Belkaïd, on a entendu dans le reportage une forme de mise en garde à la France dans ces événements. En intervenant verbalement dans ce qu'il pensait sans doute être le sens de l'histoire, Emmanuel Macron ne s'attendait probablement pas à ces critiques sur une éventuelle ingérence. Vaut-il mieux se taire plutôt que dire quelque chose qui pourrait être mal compris ?
C'est très difficile, parce que, ou alors il faut vraiment peser chaque mot et le tester avant. Je crois que c'était une conférence de presse en Afrique de l'Est, hein, donc au Kenya ou en Éthiopie, je ne me souviens pas très bien. Mais ce qui est important, c'est que le président Macron a donné l'impression de valider l'hypothèse d'un quatrième mandat étendu. Et que c'est ça qui, en Algérie, a fortement déplu aux manifestants et donc à une grande partie de la population. Aurait-il dit le contraire en s'étonnant de ce quatrième mandat étendu, que cela aurait donné des arguments à l'autre camp, à savoir le régime algérien, pour brandir la carte de l'ingérence et pour dire que finalement, peut-être, les manifestants seraient manipulés par cette fameuse main de l'étranger, comprendre la France. Donc c'est très très difficile, c'est une... Je trouve que sur cette question-là, le président aurait dû être bien plus prudent, essayer de ne pas se mettre à dos les uns et les autres en ne commentant pas une situation très compliquée. Ça va le devenir encore plus à partir du 28 avril, parce que là, le président Macron va être interpellé sur le caractère illégal de la présidence algérienne. Et là, il faudra que l'Élysée et les autorités françaises se déterminent. Et là, ça va être très difficile pour eux, parce que ils devront faire fatalement un mécontent, que ce soit la population algérienne qui, dans sa grande majorité, est contre l'extension de ce quatrième mandat, ou le régime lui-même, si jamais il venait à être critiqué par Paris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on insulte l'intelligence des Algériens si on dit, comme l'a fait le président Macron, qu'on pense que le président Bouteflika est capable de mener une transition. Ça, vraiment, c'est vraiment ne pas tenir compte de, je dirais, du niveau de maturité politique qui existe aujourd'hui en Algérie.
Alors justement, parlons de cette transition. Il est question dans la lettre du président algérien d'une réorganisation. Quel genre de réorganisation et pour quel objectif et avec quelle oligarchie ?
Vous savez, en 2014, il a fait des promesses aussi. Et c'était déjà un quatrième mandat contesté. Alors moins que maintenant, parce que c'est pas toute la population qui est sortie. Mais déjà à l'époque, sans qu'on le voie, c'était déjà par le biais de lettres, il avait promis à la jeunesse algérienne de réviser, voire le terme en arabe était plus un terme de d'équilibrage, d'amélioration de la constitution et de préparer le passage de témoins. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le projet du cinquième mandat et l'extension du quatrième. Donc personne ne croit à ce projet-là. C'est vague, c'est de la communication. Son entourage qui cherche à gagner du temps est prêt à dire n'importe quoi, à promettre n'importe quoi pour maintenir le statu quo. Et donc on agite des choses comme une conférence nationale inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand est-ce qu'auront lieu les élections ? Qu'est-ce que c'est que ce remodelage ? Alors, il parle par exemple, certains de ses soutiens parlent de changer la constitution pour limiter les mandats présidentiels. Mais c'est se moquer du monde, parce que cette constitution algérienne qui est foulée au pied de manière régulière, elle prévoyait justement la limitation des mandats présidentiels. Et qui l'a amendé pour que ce verrou saute ? Eh bien, c'est le président Bouteflika. Et maintenant, il nous dit que ses successeurs devront être limités dans leur mandat. Voilà le mépris. Et ça, c'est vraiment le caractère, je dirais, tangible du mépris dans lequel nombre de dirigeants algériens tiennent leurs concitoyens.
Et vous mettez l'ensemble de la classe dirigeante dans le même panier ?
Alors, c'est là où c'est très difficile, parce qu'il faut se garder d'avoir une position, on pourrait être tenté par une position radicale. Vous savez, le slogan en Algérie de la jeunesse et des jeunes, c'est « itnahaouga », c'est-à-dire qu'ils dégagent tous, qu'on les enlève tous. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a quelqu'un qui a eu la moindre responsabilité qui parle, on lui dit « oui, mais toi, t'as été ministre, dégage ». Donc effectivement, l'Algérie, le pouvoir algérien, c'est plus compliqué que ça. C'est des commis d'État à qui on n'a jamais demandé leur avis, qui ont servi sans rien dire. Vous avez des ministres qui ont essayé de faire des choses. Mais vous avez tout de même une camarilla, un clan, plusieurs clans, qui eux se sont toujours comportés comme si l'Algérie leur appartenait. Et c'est déjà ces clans-là, et je pense notamment à l'entourage du président actuel, du président Bouteflika, qui devront quitter la place. Comment ? Sous quelles conditions, avec quelles garanties, après quelles négociations, ça c'est une autre paire de manches. Mais en tous les cas, tant qu'ils demeureront les maîtres de la décision en Algérie, ça continuera à protester dans les rues.
Ce sont les héritiers de ce groupe de la Toussaint, le fameux groupe de la Toussaint, les six qui ont présidé aux premières années de la République algérienne.
Ce serait leur faire trop d'honneur. Je pense que cette génération des six, les six historiques, comme on les appelle, dont faisait partie feu Mohamed Boudiaf, cette génération, elle a passé la main en réalité depuis très longtemps. Il y a une légitimité revendiquée, mais dans l'appareil révolutionnaire du FLN, les choses ont changé très vite et même elles ont changé à l'indépendance, puisque tous ces six ont été à un moment ou à un autre dans l'opposition et écartés. Et je rappelle que celui qui est rentré en Algérie en 1992, Mohamed Boudiaf, pour prendre les rênes d'une instance provisoire parce que l'Algérie était en pleine crise politique, a été assassiné 6 mois plus tard. Donc non, je dirais ce sont les héritiers autoproclamés, mais la légitimité de la guerre d'indépendance n'est pas leur propriété.
Sept jours en Afrique.
Et nous poursuivons ce panorama de l'actualité de la semaine avec donc la situation en Afrique. D'abord sur le front météo avec les dégâts provoqués par le passage du cyclone Idai au Mozambique et au Zimbabwe. Des dizaines et des dizaines de morts et de blessés, des pluies torrentielles, des vents d'une extrême violence et partout des sans-abri. Le président mozambicain évoque un chiffre d'1 millier de victimes pour son seul pays. Une ville a particulièrement été touchée. Beira, le grand port mozambicain, a été dévasté. Noé Oshé-Baudin.
Oui, les dégâts sont tout simplement terrifiants, selon la Croix-Rouge, qui estime que la ville de Beira a été détruite à 90% par les vents violents du cyclone Idai. Les rafales de vent de plus de 250 km/h, couplées avec une marée haute, ont plongé Beira sous les eaux. La ville de 500 000 habitants est partiellement inondée. Pour donner des chiffres, on compte pour l'heure dans la région 10 000 personnes sinistrées, près de 900 maisons emportées, 24 hôpitaux et plus de 250 écoles partiellement englouties. Mais les ONG le reconnaissent, la situation serait bien pire qu'envisagée, avec encore des centaines de disparus dans les décombres et une centaine de milliers de vies en danger, assure le président mozambicain Philippe Nyusi. L'inquiétude concerne maintenant les barrages qui entourent Beira. Les réserves d'eau débordent et menacent de se déverser sur la ville déjà détruite. Plusieurs ont déjà lâché, indique l'ONG Oxfam, tandis que le président Nyusi appelle les populations vivant près des rivières à quitter la zone pour sauver leur vie.
Au Mali, c'est l'inquiétude qui règne désormais dans la région de Diourra, dans le centre du pays, après l'attaque contre un camp de l'armée malienne. Une attaque islamiste menée par Bamoussa Diarra, un ancien colonel qui a rejoint le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Plusieurs militaires disparus ont été retrouvés dans des villages des environs où ils s'étaient réfugiés. L'attaque a provoqué une onde de choc chez les villageois des alentours. Marie-Pierre Olfan.
Abasourdis et choqués, les habitants des localités voisines de Diourra ne cachent pas leur peur. Certains ont même vu arriver chez eux dimanche des militaires blessés à bout de souffle qui avaient pu échapper aux assaillants. Un habitant situé à 25 km de Diourra témoigne.
Hier, lorsque les blessés sont arrivés chez moi, vraiment, le village était inquiet, était très inquiet. Moi, je ne m'attendais pas à cela. Moi, je suis très inquiet.
Un homme inquiet de voir qu'un campement militaire n'a pas résisté et de savoir que les assaillants ne se cachent peut-être pas très loin. Même à Ténincou, le chef-lieu du cercle situé à 65 km, les habitants se sentent concernés, comme l'explique ce témoin.
Les habitants de Ténincou ont des parents à Djoura, donc ils sont choqués. C'est la voie de soi que nous sommes tous choqués ici. Nous ne nous sentons pas du tout protégés parce que l'insécurité, elle émane de partout. Dans les cercles, personne n'est à l'abri d'une attaque de telle envergure. Donc, raison pour laquelle la population a peur.
Par peur et par prudence, les habitants de Ténincou, qui se rendent d'habitude le lundi à la foire de Diourra, n'ont pas quitté la ville hier.
Mouvement de protestation en Mauritanie, dans le secteur de la pêche artisanale, vitale pour l'économie du pays. Les 12 000 pirogues qui pêchent au large de Nouakchott étaient immobilisées cette semaine en raison d'une grève de protestation contre une décision du gouvernement d'interdire l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère. Salam Majbour Salem.
Ces derniers jours, les pirogues mauritaniennes ont été arraisonnées pour vérifier la nationalité des équipages et ordonner le débarquement de tous les pêcheurs étrangers. Ce sont pour l'essentiel des ressortissants sénégalais. Mortar Elbou, du regroupement des producteurs et exportateurs de la pêche artisanale, justifie le recours à la main-d'œuvre étrangère.
Ils nous obligent que tout l'équipage soit des Mauritaniens. Et la réalité, qu'on le dise, c'est la vérité. On n'a pas une embarcation qui peut 100% être des Mauritaniens. Ils ne sont pas qualifiés, ils ne peuvent pas être 100% des Mauritaniens. Il nous faut d'autres main-d'œuvre, que ce soit malien, que ce soit marocain, que ce soit chinois.
Le président de la Fédération nationale des pêches proches du pouvoir, Mohamed Wul Salek Baypara, prône une solution durable et cela passe par la formation des Mauritaniens.
Il faut former une main-d'œuvre, il faut créer une main-d'œuvre. Toi, tu veux travailler dans ta nation à long terme, tu veux continuer à travailler dépendant des autres nations. Ça, c'est pas l'esprit d'un businessman. On a la mer, on a les humains, il faut les former pour gagner de l'argent.
Les responsables du mouvement des grèves ont pris contact mardi avec le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Ce dernier leur a confirmé la nouvelle règle, c'est les Mauritaniens sont autorisés à embarquer pour pêcher.
Une attaque de combattants islamistes au Mali, une grève liée à la main-d'œuvre étrangère en Mauritanie. Akram El Kaïd, l'actualité en Afrique est plutôt mouvementée.
Alors je vous l'avoue, franchement, je ne suis pas spécialiste de l'Afrique subsaharienne, mais la situation au Mali est inquiétante, voilà. L'intervention française remonte à 2013, si mes souvenirs sont bons, fin 2012, début 2013, et on voit que la situation n'évolue pas, que politiquement parlant, on a encore des divisions et on a encore des attaques de ce type, et qu'on voit même l'instabilité qui commence à gagner des pays comme le Burkina Faso. Curieusement, ça ne fait pas partie des préoccupations immédiates, alors que c'est la porte à côté, à la fois pour la France, mais aussi pour le Maghreb.
Alors à propos de l'Algérie, vous écriviez en décembre dernier dans un article du Monde diplomatique qu'un coup d'État militaire était possible en Algérie, car l'armée se serait profondément réorganisée ces derniers mois, avec notamment une succession de limogeages d'officiers supérieurs. Est-ce toujours un risque aujourd'hui ?
Alors, en fait, c'était plus l'idée d'un coup, d'une restructuration rampante qui ne disait pas son nom, et qui venait, la volonté qui venait du clan présidentiel qui cherchait à s'assurer des appuis inconditionnels au sein de l'armée. C'est quelque part tout ça dans un contexte de paranoïa, justement, par rapport à ce coup d'État. C'est-à-dire que le pôle de pouvoir présidentiel vit depuis plusieurs années dans l'obsession de se prémunir d'une intervention militaire, c'est-à-dire que l'armée soudain se réveille ou décide que les choses ont trop duré et que ce pôle présidentiel doit passer la main, disparaître, être ou voir son influence être réduite. C'est surtout ça que je voulais exprimer dans ce papier.
Merci Akram Belkaïd.
Merci à vous.
Journaliste, essayiste algérien. Un mot de votre chronique du Blédard de cette semaine pour le quotidien d'Oran. De quoi est-il question ?
Ah bien, des événements actuels avec, je voudrais citer deux mémoires parce que j'ai pas mon texte devant moi, mais deux mémoires. J'ai dit que on qualifie souvent l'Algérie de pays riche avec une population pauvre. Je pense qu'il y a une autre définition qui s'impose aujourd'hui. C'est un pays où le peuple vaut bien mieux que ceux qui le dirigent.
Des chroniques, celle-ci en particulier, mais d'autres textes également à retrouver sur votre blog Ligne quotidienne, au pluriel, à cette adresse akram-belkaïd.blogspot.com. Je rappelle également votre dernier ouvrage paru, Pleine lune sur Bagdad, aux éditions Eric Bonnier en 2017, un recueil de 14 nouvelles, dont le dénominateur commun est une date, le 20 mars 2003, une date hautement symbolique pour l'Irak et le reste du monde. Et puis, apparaître le 4 avril prochain aux éditions Talendier, l'Algérie, en 100 questions. Une semaine d'actualité réalisée cette semaine par Pauline Leduc. Retrouvez l'émission pour la podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr ou à la page Une semaine d'actualité sur Facebook. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.